Bonsoir, auditeurs, auditrices d'Imaginaire. Nous ne sommes pas en direct. Une bonne partie de l'équipe est partie s'assourdir au concert des Télescopes au Joker's Pub. Vous nous avez peut-être croisés ce week-end au Festival Cultissime, où nous avons interviewé Pierre Bordage, Victor Dixen et H. Lenoir. On s'écoutera ça dans les semaines qui arrivent. Donc ce soir, nous allons écouter un micro-trottoir de personnalités croisées dans les allées de ce salon des œuvres cultes, qui nous ont chacun, chacune parlé de leur œuvre culte. Nous n'avons pas pu enregistrer la harpiste Zoé Picavez qui a enchanté les jardins des Greniers Saint-Jean, donc on s'écoutera quelques covers à la harpe par la youtubeuse Ariana Warshan. En deuxième partie d'émission, on va enfin vous diffuser l'interview de Claire Garand que nous avions enregistrée aux Utopiales. Elle venait d'y recevoir le prix Julia Verlanger pour Paideia, son roman publié chez La Volte, et qui vient juste de rafler aussi le prix Rony Aîné. Mais avant tout, retour à Cultissime avec Olivier Ruiz et Dionysos, un extrait de la bande originale du film d'animation Jack et la mécanique du cœur que vous avez peut-être vu ou revu ce week-end présenté par Mathias Malzieu.
Ojos tienes debajo de tus dos cejas, debajo de tus dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas. Ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, como el candor de una rosa. Yo te concedo razón,
Bonjour, donc moi c'est Anne-Laure et je suis chargée de projet culturel à l'Université d'Angers. Mon œuvre culte, je dirais que c'est Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. J'ai toujours aimé les enquêtes, surtout les enquêtes classiques où il y a vraiment de la réflexion derrière, et je pense qu'Agatha Christie, un peu comme Conan Doyle, sait les mettre là-dedans. Et comme j'ai commencé avec Agatha Christie, Agatha Christie a mon choix d'œuvre culte.
Okay. Est-ce que tu as une adaptation film que tu adores de ça?
Moi j'aime beaucoup la série classique, alors je crois que c'est de la BBC. En termes de film, j'ai pas trop accroché, notamment avec la dernière adaptation que j'ai trouvé pas être une très très bonne représentation d'Hercule Poirot, même si le film est magnifique avec un casting incroyable, donc j'ai quand même apprécié le voir, mais je crois que je préfère vraiment le livre aux adaptations qui ont pu être faites, mais je les ai peut-être pas toutes vues.
On est dans l'espace conférence, mais demain il y aura une table ronde sur les cozy crimes, il me
semble. Tout à fait, j'y serai.
Merci Anne-Laure.
Je m'appelle Caroline de Benedetti et j'ai monté une association qui s'appelle Fondue au Noir il y a 17 ans, dans l'idée de partager des passions autour des romans policiers, de la littérature policière et plus largement des littératures de genre, donc dans lesquelles on va croiser aussi ce qu'on appelle l'imaginaire aujourd'hui, la SF et tout ça. Et voilà, et ça me rattache à une passion très ancienne qui est effectivement la lecture, la littérature qui me suit depuis que je suis petite. Il y a eu des pauses, mais les livres ont toujours fait partie de mon environnement. Ouais. En premier lieu, je suis venue travailler, puis je travaille sur le festival, sur la modération de certaines rencontres. Et en deuxième lieu, je suis aussi visiteuse parce que je perds jamais le côté envie d'aller écouter les autres, écouter les auteurs, voir comment se passe un festival. Tous les festivals sont différents, donc je suis venue aussi voir et écouter. L'œuvre culte qui renvoie à mon enfance, je dirais par exemple, ce serait... je ne sais pas si j'arriverai à départager entre Le Club des Cinq et Fantomette, parce que c'est... Alors Fantomette, il y a l'héroïne justicière qui sort la nuit de chez elle pour rendre la justice, et le côté groupe du Club des Cinq, bande d'amis, avec des caractères bien trempés, des personnages emblématiques, la présence du chien, toujours très important, l'animal. Ça a été vraiment les deux, en tout cas, qui ont été cultes pendant très longtemps et qui ont initié, ouvert les portes de la lecture et de la littérature, et notamment du genre et du polar et de l'enquête et du mystère et du suspense, et que je lisais dans ce fameux grenier magique, pour moi en tout cas, qui était un lieu culte aussi.
Non, c'est quoi le grenier magique?
Enfin, un grenier en tout cas propice à la lecture, qui était à l'étage de l'appartement de mes grands-parents, puisque dans mon souvenir, parce que l'enfance qu'on a, c'est toujours des souvenirs un peu confus, mais mon arrière-grand-mère avait une librairie imprimerie à Auray, et donc dans le grenier il y avait tous les livres, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, rouge et or, les Alice, la collection Le Masque avec Agatha Christie. Ça a été mon parcours de lecture. Je piochais dedans, en fait, et j'ai pu lire comme ça tous les livres qui me tombaient sous la main et qui étaient quand même beaucoup des livres d'enquête policière.
Ok, merci Caroline.
Merci à toi.
Ouais, alors moi je suis Sébastien, j'anime la Case de Seb, une émission BD, comics, manga sur Radio G. J'anime également Les Voix du Scénarium, une émission plutôt consacrée aux jeux de rôle, toujours sur Radio G. En fait, il y a plein d'œuvres que j'aime beaucoup. Il y en a une qui m'a toujours bercé et que j'ai vraiment aimé, qui s'appelle Marche ou Crève de Richard Bachman, qui est le pseudo de Stephen King. Et en fait, c'est un roman qui m'a énormément impacté. Il n'y a pas de fantastique dedans. C'est une uchronie dans un état totalitaire où en fait, on propose à des jeunes enfants d'aller marcher jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Et tout le monde, au départ, il va de manière bon enfant, sauf que quand ils n'en peuvent plus, ils se prennent une balle dans la tête. Donc c'est une œuvre que j'ai toujours adorée par sa violence, par son côté très pessimiste. Et j'ai appris que... Enfin, il y a eu une possibilité d'adaptation cinématographique qui traînait depuis très très longtemps. Et j'ai appris que depuis peu, l'adaptation est en chantier. On a vu une première photo, en fait, du général qui fait marcher tous ces gamins-là et qui est incarné par Marc-Émile.
Superbe, merci Sébastien.
Mais de rien.
Moi c'est Maroussia, je suis bénévole pour Cultissime, notamment au niveau de la billetterie et des entrées. Et mon œuvre Cultissime, pour moi, c'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, donc, qui est un roman très sympathique sur trois jeunes filles qui décident de faire le tour de la France en vélo parce qu'elles ont été classées trois boudins de leur lycée. Donc on a sur des thèmes voilà, de la grossophobie, du racisme, etc. Mais sur fond de thématiques lourdes, Clémentine Beauvais a ce... comment dire, cette magie au niveau de la plume de réussir à rendre les choses un petit peu plus légères sans forcément cacher le fait que ce soit des thématiques lourdes, attention. Et en fait, elle en fait une œuvre brillantissime, très drôle. Moi, j'ai rigolé plusieurs fois en lisant mon roman. Donc, on est sur du ado-young adulte, thématique importante dont il faut parler, mais léger. Donc, on peut voilà, lire ça en une journée facilement.
Merci Maroussia, tu as de la chance en plus. Toi, tu peux faire dédicacer ton œuvre Cultissime au Festival Cultissime cette année.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu l'as rencontrée, Clémentine Beauvais?
Oui, je l'ai rencontrée, elle est trop sympa. Si vous avez l'occasion un jour de la rencontrer, faites-le parce qu'elle est vraiment très gentille.
Merci et bon festival.
Merci beaucoup, toi aussi.
Eh bien, je suis Romain Lherbreteau, je fais partie de l'association Imaginaire et on est représenté ici sur un stand, mais où on participe à des tables rondes en temps de modération et on a aussi amené une autrice avec nous dans nos bagages qui est Audrey Plenet.
Bon, les auditeurs de l'émission doivent reconnaître ta voix quand même, j'espère.
Bah, peut-être.
Quelle est ton œuvre culte?
Alors, mon œuvre culte, c'était difficile d'en choisir une, donc j'en ai choisi une qui n'est pas forcément la plus évidente. C'est Chasse Royale de Jean-Philippe Jaworski, qui est donc un écrivain de fantasy français qui fait que de très beaux livres. Ce Chasse Royale, ça se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ, au bord de la Loire, avec des Gaulois avant l'invasion romaine. C'est indescriptible tellement c'est sauvage, épique, c'est génial, c'est très peu fantastique. On est vraiment pris par les personnages, par l'ambiance. C'est incroyable. J'attends la suite avec impatience parce que la série n'est pas encore finie.
Et puis Jaworski, c'est aussi un style.
C'est un style. Alors c'est quelqu'un qui écrit de manière très précise avec des mots très techniques. Alors ça se passe dans l'Antiquité, donc il y a c'est un style extrêmement littéraire. Et puis il y a du vocabulaire qui est ultra riche sur les boucliers, les lances, etc. Ça peut être une difficulté à la lecture d'ailleurs, donc des fois on peut s'arrêter, mais faut se laisser emporter par le livre, par la langue. Et c'est magnifique. Et puis surtout c'est vraiment, je pense que ça a un côté épique des feuilletons du 19e siècle. Ça, pour moi, ça sera peut-être le Monte Cristo du 22e siècle. Peut-être qu'on y fera référence. Mais en tout cas, on peut être très fiers, nous, d'avoir Jaworski. Et il est français.
Ok. Merci, Romuald.
Merci.
Bonjour, les auditeurs d'Imaginaire de Radio G. C'est Audrey Plenet. Mon œuvre culte, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, qui est un livre que tout le monde a lu. Je vais même pas devoir tout vous raconter, c'est un livre de SF. Je l'ai lu très jeune et c'est en fait l'histoire d'un homme qui a un retard de développement mental, cognitif, qui est sélectionné pour essayer un médicament révolutionnaire qui lui permettrait donc de développer une capacité cognitive, et ça va bien au-delà de ça puisqu'il devient extrêmement intelligent et même plus intelligent que la moyenne des êtres humains. Et en fait c'est assez terrible et beau à la fois, parce que en fait, en devenant intelligent, il n'est pas plus heureux. Et en devenant comme ça intelligent, il se rend compte également à quel point ça l'ostracise des autres personnes. Et donc il y a cette question en fait de la relation entre intelligence, bonheur, l'art également. Il s'éveille à l'art quand il est au plus haut de l'intelligence, et quelque part il y trouve du réconfort. Et c'est un livre aussi où la forme sert le fond, puisqu'en fait c'est son journal intime où il commence à écrire avec énormément de fautes de grammaire et d'orthographe. Donc c'est un des seuls livres où on a le droit de faire des fautes de grammaire et d'orthographe. Et en fait, au fur et à mesure, on voit que ses phrases, bah déjà il fait moins de fautes, et ses phrases se complexifient jusqu'à atteindre parfois un phrasé qui montre toute la complexité qui est arrivée dans son esprit en développant cette surintelligence, en fait, en devenant vraiment surdoué, hein, parce qu'il y a tout ça. Et donc c'est très beau, c'est très triste, c'est de la belle SF comme on aime, et la forme narrative aussi très magistrale.
Je l'ai vu au théâtre l'année dernière au Festival d'Anjou.
Alors oui, il y a eu une adaptation au théâtre qui a été faite par l'auteur lui-même. C'est aussi une autre façon de découvrir cette œuvre.
Merci Audrey, à bientôt.
À très très bientôt pour une prochaine émission.
Avec vous.
Et on se revoit aux Utopiales.
Céline Grégu, moi je suis docteur en littérature anglaise et là j'enseigne à l'université d'Angers pour cette année. J'ai fait ma thèse sur Dracula et Nosferatu de Murnau notamment. Et je travaille surtout sur tout ce qui est représentation du mal en littérature, en cinéma, dans les arts et aussi ce qu'on appelle les Metal Studies qui est l'étude de la musique métal sous l'angle universitaire.
Alors quelle est ton œuvre culte hein?
Du coup, je dirais Dracula, même si j'en ai effectivement un petit paquet d'œuvres cultes. Ça dépend de Dracula et puis Pride and Prejudice de Jane Austen pour faire la balance, voilà, pour faire l'équilibre.
Et puis, cultissime, on en parlera tout à l'heure de Jane Austen.
Oui, en plus, j'ai vu ça. Donc, non, plein d'œuvres cultes, mais bon, par défaut, je vais dire Dracula, puisque je travaille dessus quand même depuis 8 ans maintenant. Donc, voilà.
Le roman de Bram Stoker.
Le roman de Bram Stoker et puis quelques adaptations aussi cinématographiques notamment.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Je ne sais pas et je pense que quand je saurai pourquoi, j'arrêterai de travailler dessus. Parce que le mystère est là et je pense que c'est ce qui me pousse à étudier l'œuvre aussi. Ne pas savoir pourquoi justement. Mais non, je suis très attirée par tout ce qui est représentation du mal, MAL... encore une fois, dans la littérature, dans les arts, etc. Comment on va traduire ce que le texte crée, comment on va le traduire en images, en sons. Il y a vraiment des choses qui se passent qui sont très intéressantes à ce niveau-là.
Ok, merci Céline.
Merci à vous, bonne journée.
Moi, je suis Corentin, ou aussi connu sous le nom de pseudo de Pantaléimon sur la Gazette du Sorcier. Et donc, je suis anciennement rédacteur en chef du site Gazette du Sorcier, premier site d'actualité Harry Potter en France. Mon œuvre culte, surprise, c'est À la croisée des mondes de Philippe Pullman, qui est vraiment un livre que j'ai trouvé passionnant et un univers incroyable. Donc, d'ailleurs, j'attends le dernier tome de la trilogie de la poussière qui devrait sortir à un moment dans les années à venir.
À Cultissime, on passe du livre à d'autres médias ou ça va dans l'autre sens aussi? Qu'est-ce que tu as pensé de l'adaptation télévisuelle récente?
J'ai trouvé que l'adaptation était très réussie, très fidèle, mais en faisant aussi les changements nécessaires pour rendre l'histoire, la faire fonctionner en matière de en format série. Voilà, introduire des personnages qui apparaissent normalement que dans le deuxième tome dès la première saison, se permettre aussi voilà, des libertés sur certaines représentations de personnages, mais avec un, ça fonctionne très très bien. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne adaptation.
Bon, une dernière question, alors pourquoi c'est ton œuvre culte? Peut-être comment t'es arrivé à cette œuvre et pourquoi c'est encore ton œuvre culte aujourd'hui alors que là tu viens nous parler plutôt d'Harry Potter?
Je suis arrivé à cette œuvre après avoir lu Harry Potter. Harry Potter m'a ouvert à la lecture en fait, et on dit souvent à la Gazette du Sorcier, Harry Potter c'est une porte vers d'autres univers, vers autre chose, c'est pas une fin en soi. Et je suis arrivé ensuite à La Croisée des Mondes qui voilà, m'a beaucoup parlé dans les thèmes qu'ils abordaient, la fin m'a énormément touché comme de nombreux lecteurs, et voilà, c'est une œuvre qui est vraiment restée avec moi pendant de longues années après.
Ok, bah merci, bon festival.
Merci.
Bonsoir, Camille Denmont, bénévole à Cultissime. Mon œuvre culte, c'est Elana de Pierre Bottero. Et donc, c'est vraiment un roman, enfin, une trilogie qui m'a suivie pendant toute ma jeunesse. Et donc, j'ai relu dernièrement le livre parce que je savais que ça me, que je l'adorais, mais je savais plus pourquoi. Et vraiment, en le relisant, c'est là que j'ai compris que, je pense que c'est plus le mode de vie des Marchombres, la manière dont... Donc, Elana, c'est une jeune fille qui souhaite devenir Marchombre, donc dans l'univers de Pierre Bottero, ça, c'est une sorte de guilde de personnes, je ne sais pas comment l'expliquer. Et donc elle souhaite devenir Marchombre, souhaite devenir comme ces personnes qui ont des capacités incroyables, hors normes. Et en fait, c'est vraiment un mode de vie, une manière de penser qui est tout autre et qui nous libère, en fait, vraiment. Et moi, ça m'a vraiment procuré un sentiment de liberté de lire Elana. Et c'est vraiment ce que, maintenant, je pense, je vais rechercher dans ma vie. Essayer d'être le libre un maximum et de pouvoir vivre ma vie.
Donc, un livre de fiction, même d'imaginaire, ça peut changer une vie?
Ah oui, évidemment, bien sûr. Parce que si les mondes imaginaires n'avaient pas d'impact sur la vie réelle, pourquoi est-ce qu'on lirait l'imaginaire, j'ai envie de dire? Bon, effectivement, ça fait rêver, mais ça fait rêver parce que c'est aussi un petit peu ancré dans le réel. Donc, voilà.
Merci.
De quoi?
Là, c'est encore une voix de Radio G qu'on va reconnaître.
Bonjour. Luc Douin, l'animateur de l'émission Entre les pages. Et mon œuvre culte, c'est un livre extraordinaire qui s'appelle Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, de Howard Button, qui décrit la vie d'un enfant et un regard d'enfant, d'un enfant qui a, semble-t-il, commis un geste dramatique. Et on va vivre toute l'histoire par les yeux de cet enfant. Et moi, quand je l'ai lu, ce bouquin, j'ai été sidéré, ému et effrayé par la manière dont Howard Button arrive à nous faire vivre cette histoire et à nous faire comprendre, sans jamais le dire, le drame par lequel est passé ce gamin. Donc c'est simple, Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, de Howard Button.
Merci Luc.
Bonjour Virginie, 1m75, 90, 60, 90, à l'humour totalement pourri. Voilà. Non, je suis juriste, j'ai 5 enfants, un mari, une famille nombreuse. Je suis une fanat de bouquins, beaucoup de BD, et je lis à peu près tout ce qui passe, y compris la presse.
Okay. Quelle est ton œuvre culte?
Alors, c'est assez surprenant, c'est un livre de Raymond Queneau qui s'appelle Les Fleurs Bleues. Les fleurs bleues, c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Cide Rollin, qui vit à Paris. Et parallèlement, il y a un autre type qui s'appelle le duc d'Auge. Et le duc d'Auge, lui, il est au Moyen-Âge. Et lorsque l'un s'endort, l'autre se réveille, chacun dans son époque. Et le duc d'Auge, il avance dans le temps. C'est-à-dire que quand il s'endort, Cide Rollin se réveille à Paris, sur sa péniche. Le duc d'Auge, Cide Rollin s'endort et il y a un système de passation, l'un avec de l'anis, l'autre avec du pastis. C'est ce qui crée ce lien et il y a également un lien avec la peinture. Quand l'un touche un pinceau, l'autre se réveille. Et le duc d'Auge, lui, il avance dans le temps et il traverse l'histoire. Et il traverse l'histoire de France. C'est assez passionnant. Il y a plein de références à plein de choses, du pré-adamite, donc les hommes des cavernes. Exactement, qui peignent en fait, et on apprend au fur et à mesure de l'histoire, par exemple, que le duc d'Auge, qui en a ras-le-bol de l'église, décide de peindre des peintures préhistoriques pour faire croire à la préhistoire. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça, il rencontre Jeanne d'Arc, il rencontre Gilles de Rais, et on avance au fur et à mesure du temps jusqu'à ce que le duc d'Auge arrive à Paris. C'est vraiment un livre très très sympa, il faut avoir une bonne culture générale parce qu'il y a plein d'anecdotes, plein de références à l'histoire, plein de références à l'alcool, plein de petits jeux de mots assez drôles sur les types de la RATP, c'est le ératypiste, voilà. Plein de petites choses comme ça que j'aime beaucoup. J'ai plaisir à le relire parce qu'au fur et à mesure qu'on parfait sa culture générale, on trouve d'autres anecdotes. Et Raymond Queneau, il n'a pas fait que exercice de style, des petits bouquins comme ça. Et pas que Zazie dans le métro, mais celui-ci, c'est vraiment mon favori.
Super. Merci Virginie.
Je t'en prie.
L'association Imaginaire est toujours présente aux Utopiales avec joie et ravissement, et d'autant plus car aujourd'hui nous sommes avec Claire Garand. Claire Garand, indépendamment d'être l'autrice que tu peux être, tu es surtout la récipiendaire du prix Julia Verlanger que tu recevras ce soir, même si tu as déjà été annoncée. C'est vraiment une consécration puisque dans ta carrière tu es autrice, ancienne conservatrice de bibliothèque, tu as été directrice de festival, podcasteuse pour une émission Comment j'ai écrit certains de mes livres. Tu as écrit quelques romans, un nous intéresse, à la volte, et tu es récompensée pour celui-ci. Et c'est transformé. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir reçu ce prix?
Le prix, quand on le reçoit, il arrive bien après l'écriture. Et en fait, moi, ce qui me passionne, c'est l'écriture de romans. Donc, en fait, il y a un détachement total entre le prix. Et ça, c'est un grand plaisir, évidemment. Mais c'est un peu bizarre parce que c'est quelque chose qu'on a fait. Mais c'est un petit peu comme si je recevais un prix pour quelque chose que j'avais fait dans mon enfance, par exemple. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que pour moi, c'est très détaché de l'écriture et du plaisir, des difficultés, du travail que j'ai fait sur l'écriture. Donc c'est un peu étrange pour moi, mais c'est un plaisir bien sûr.
Ah, tu m'en voudras pas, mais moi ce que je trouvais étrange, c'est justement que tu sois autrice de ce roman, car après toute la carrière de ta vie que tu as pu avoir, que je viens d'énumérer très très succinctement, et les autres romans que tu as pu écrire, tu fais une entrée fracassante dans le milieu de la science-fiction. Pourquoi ce genre? Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans?
J'aime beaucoup tous les genres, mais je lis effectivement beaucoup de science-fiction, vraiment beaucoup de science-fiction. En imaginaire, c'est vraiment ça qui m'intéresse, tout simplement parce que le sujet s'y prêtait. Je voulais raconter une histoire dans un milieu hostile, un milieu difficile, un milieu vraiment pénible, et je trouvais que le vide, c'était pas mal au niveau de la difficulté. L'idéal, c'était de présenter un personnage dans un espace particulièrement contraignant, difficile, dont on ne pouvait pas se sortir. Voilà, donc c'était la base. Mais disons que le lieu est venu après le personnage et après l'idée de l'histoire. Tout est cohérent. Le personnage est arrivé d'abord et il s'est transformé au fur et à mesure de la naissance aussi du décor, parce que du monde dans lequel elle évolue, les deux se nourrissent mutuellement, tout simplement. Mais je suis pas sûre que ça soit fracassant comme comme entrée, mais moi je me sens dans le milieu de la SF depuis longtemps, parce que je lis de la science-fiction depuis vraiment, alors comme j'ai quand même 50 ans, j'en lis depuis, en fait je peux même dire exactement depuis quand, j'en lis depuis que je suis en CE2, parce que mon premier roman de SF, c'était un roman qui avait été conseillé par la prof, l'institutrice, que je remercie. Et le roman s'appelle Un trou dans le grillage. Alors, c'est absolument pas connu, de François Sautreau, mais je lui rends hommage parce que c'est lui qui a fait mon entrée qui a permis mon entrée dans la science-fiction. Et ça, c'était fracassant. Parce que je n'avais jamais imaginé un truc comme ça. C'est l'histoire d'un petit village. On a l'impression que tout se passe bien. Ambiance années 60. Et puis, en fait, il y a un grillage autour et les enfants cherchent à savoir pourquoi il y a un grillage autour. Et bien évidemment, en réalité, ils sont dans une espèce... Alors, gros spoiler, mais je pense que ça manquera à personne. Ils vont découvrir que c'est une réserve une espèce de réserve d'humains de 1960, et qu'autour, le monde a complètement évolué. Alors, c'était l'imaginaire de l'an 2000 de l'époque, donc avec des personnages avec des vêtements intelligents, avec des fusées, ils se déplacent en fusée, enfin bon, bref, c'est... Je l'ai racheté d'ailleurs, mais ça c'est mon entrée en science-fiction. Voilà.
Bah, tu m'excuseras, mais pour nous, ton entrée, c'est premier roman de SF, prix Julia Verlanger, quasiment le plus gros prix de science-fiction française. Ça, si c'est pas fracassant, je suis désolé, ça y est. Mais ce qui est intéressant dans ta réponse, c'est ton personnage. Tu as construit ton roman, tu dis, d'abord sur ton personnage, ensuite sur ton décor. Tu as créé ce personnage au milieu du vide, et puis surtout, dans une ambiance particulière, on est autour de la Terre. Excusez-moi pour le spoiler.
De la Lune.
Oui, mais la Terre, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'anticipation climatique, la catastrophe climatique qu'il y a dessus. Pourquoi avoir choisi ce décor
Pourquoi avoir choisi
Pourquoi avoir imaginé Voilà, une terme.
Oh, alors là, j'avoue que c'est vraiment quelque chose de très... Pour moi, c'était assez simplificateur. C'est-à-dire que mon objectif était de placer le personnage dans une situation de quasi-extinction de l'espèce humaine. Mmh. Bah, il fallait bien que la Terre soit morte. C'est pas l'élément sur lequel je me suis le plus penchée. Mmh. J'ai plus travaillé le côté village lunaire, guerre sélénite. Mais sur la Terre, c'était presque un pensif de la science-fiction, mmh. à partir duquel je me suis... sur lequel je me suis fondée, je me suis basée, c'était pas quelque chose de... Enfin, de mon point de vue, c'est plutôt banal, dire que la Terre est devenue inhabitable. Oui, empoisonnée, oui, bah, disons que c'est quelque chose qui est plutôt, de mon point de vue, un artifice de construction de l'univers narratif.
Tu parles de poncif pour ça, et c'est exact, on le retrouve assez souvent dans les livres de science-fiction. Ton personnage seul, dont la destinée est justement prédestinée par d'autres intellectuels, est-ce que ça aussi, c'est pas un peu un poncif? Pourquoi avoir eu besoin de ça?
Alors là, c'était pour montrer le carcan dans lequel se trouvait le personnage. Et le fait, la manipulation et des êtres qui ne sont même pas encore nés, puisque le projet est né avant même que le personnage ne soit né.
Tu peux parler un peu plus, expliquer plus ce qu'est ce personnage?
Oui, bien sûr. Alors en fait, le personnage est une enfant génétiquement modifiée pour être supérieurement intelligente et aussi modifiée dans son corps pour pouvoir porter plusieurs enfants à la fois. Et en fait, ce qui moi m'intéressait dans ce destin déjà tracé, c'était que on ne lui avait laissé aucune échappatoire. Oui, c'est tout à fait, c'est quelque chose d'assez banal en science-fiction, mmh. des destins déjà tracés, c'est pas original. Là, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de montrer que malgré ce destin tracé, malgré ce lieu dans lequel elle ne pouvait pas, normalement, elle n'aurait rien pu faire, eh bien qu'on voit sa réaction en fait. C'était ça que je voulais mettre en évidence. D'où forcément le carcan.
Il y a un côté très où, dans ton postulat de base, où l'individualité de ce personnage-là, mais il n'est pas seul, doit s'effacer au profit du collectif. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la notion du titre, Paideia, où c'est l'ensemble de l'excellence réunie dans un seul individu au profit de la collectivité. Sauf que toi, tu te combats ça. Pourquoi avoir choisi cette dichotomie entre un thème qui a quelque chose de bénéfique quand même, et finalement une morale qui ne l'est pas tant que ça?
Justement parce que pour moi, même si c'est bénéfique pour le collectif, on doit quand même s'interroger sur le coût pour l'individu. Mmh. Et le placer dans une situation impossible, c'est-à-dire quasi-extinction de l'espèce, quel droit conserve l'individu? Et parce que moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est... alors là, après, c'est vraiment ce que moi, j'ai voulu y mettre. C'est pas forcément ce que les lecteurs y trouvent. Mais c'est cette... ça n'est pas seulement l'injonction à la reproduction. C'est que notre corps lui-même est une machine à réplication. Je retrouve dans... Enfin, j'essaie de me baser aussi sur l'idée du gène égoïste qui est donc développé par Richard Dawkins dans son essai éponyme, la boîte à ADN. Nous sommes des boîtes à ADN avant d'être des individus. Et l'ADN existe depuis la soupe primitive. Il commence par nager, si je puis dire. Après, il trouve le moyen d'aller sur Terre, sous forme de plante ou sous forme d'animal. Une fois qu'il est sur Terre, il va se répandre sur la Terre, sur l'ensemble des continents. Et une fois qu'il est sur les continents, il va s'envoler sous forme d'oiseaux, sous forme de ptérodactyles, je ne sais pas. Et une fois qu'il est devenu un être humain, alors il y avait énormément de stades dans l'évolution, mais une fois qu'il est devenu un être humain, eh bien il va vouloir quitter cette planète. Mais tout ça pourquoi? Parce que c'est la boîte à réplication qui veut toujours, enfin elle n'a pas de volonté, c'est un mécanisme. Et ce mécanisme, eh bien il va entrer en opposition avec l'intelligence de la boîte, parce que tout d'un coup la boîte à ADN commence à prendre conscience de ce qu'elle est. Elle commence à prendre conscience de ce qu'elle pourrait être d'autre et de ce qu'elle pourrait créer d'autre. Elle devient consciente, tout simplement. Et à ce moment-là, le choc se produit entre l'élan autoréplicateur et la conscience qu'on peut en avoir. est-ce que je suis d'accord avec cette réplication ou pas ? Donc, cette reproduction forcée l'est par des individus humains qui ont créé le programme Paideia dans le roman, mais c'est la traduction d'un élan reproducteur qui nous vient depuis un certain temps, depuis la soupe primitive, depuis le premier ADN répliquant. Donc moi, c'est ça qui m'a intéressée dans cette opposition entre l'individuel et le collectif. C'est pas seulement l'individuel et le collectif, c'est ce qu'il y a encore en dessous, c'est-à-dire entre cet élan réplicateur de l'ADN qui va bien au-delà du collectif en soi et la conscience de l'individu. Voilà comment moi j'ai perçu cette opposition, pas seulement l'individuel et le collectif.
Alors j'en reste sur ce thème que tu n'as absolument pas perçu, puisque j'y avais vu des critiques qui disaient qu'il y avait une très belle analogie avec le système capitaliste, où on arrivait à une génération qui ne voulait plus être définie uniquement par son travail et son apport au collectif, mais aussi à sa capacité à s'assumer soi-même et à s'enrichir. C'est quelque chose que tu n'as pas du tout vu, ou il y avait un...
Alors pour moi, de toute façon, entre ce que moi j'écris et ce que le lecteur lit, je considère que déjà il y a 50% de ma part, 50% de la part du lecteur, et de mon point de vue, le lecteur a raison. C'est l'auteur, selon moi, plante des graines dans la tête du lecteur et elle pousse comme elle pousse. Si certains lecteurs ont perçu cette critique de capitaliste, de l'individualisme, bien sûr, mais ils ont raison. C'est pas... Quand on crée une histoire, de mon point de vue, elle est faite pour que les lecteurs s'en emparent, pour qu'ils y trouvent quelque chose, même si l'auteur ne l'a pas mis. C'est pas... Une bonne histoire, c'est pas celle qui raconte uniquement ce qu'elle raconte. Enfin, me semble-t-il, hein. Après, quand je dis bonne, c'est une histoire qui fonctionne. C'est une histoire qui va vivre à l'intérieur du lecteur et dont il va pouvoir s'emparer. Pour qu'il s'en empare, il faut qu'il y ait des espaces vides, des interstices, si je puis dire, et une respiration. Et c'est dans ces respirations que le lecteur va créer sa propre vision. S'il y voit une critique de l'individualisme, mais oui, très bien. Moi, je ne suis pas, je dirais que je ne suis que l'auteur, entre guillemets. Le texte vit sa vie. C'est comme un être humain. Une fois qu'il est né, il vit sa vie. Eh bien, le texte, c'est pareil. Et il rencontre les lecteurs s'en nourrissent. Et ce qu'ils créent dans leur tête, dans leur réflexion, leur appartient. Je n'ai rien à... J'ai pas... Enfin, c'est pas à moi. C'est à eux. Voilà.
On va passer au portrait chinois, si ça te va bien. Est-ce
ça
que tu
va
es
très bien.
Prête?
Non, mais vas-y.
Je t'annonce une grande nouvelle, sache-le, la réincarnation existe.
Oui.
Et tu vas pouvoir te réincarner dans un animal mythique. Qu'est-ce que tu voudrais être?
Alors, j'ai le droit de botter en touche ou pas?
Si c'est construit.
J'ai pas envie de me réincarner. Peut-être que je choisirais... Est-ce que c'est mythique? L'oiseau roc.
Oui, c'est mythique, bien sûr. L'oiseau de tonnerre, bien sûr.
Voilà.
Donc, plutôt mythologie arabe, musulmane, perse.
Oui, oui. Ouais. Oui, c'est parce que c'est un oiseau magique qui vole et qui fait des choses extraordinaires. Voilà. Mais si possible, j'aimerais bien ne pas me réincarner quand même.
On soumettra l'idée.
Oui.
L'association imaginaire, comme tu nous connais, a extrêmement d'influence en France et
bien
on
sûr.
Te donne la direction du musée que tu veux.
Alors, pas la Cité internationale de la langue française. Du musée que je veux, je crois qu'en fait, je préférerais. Alors, ça, c'est. Mais la bibliothèque de Babel, c'est pas un musée, mais ça me plairait bien, j'avoue. Voilà.
Et tu as la possibilité, dans ta nouvelle bibliothèque, que tu es en train de construire maintenant, soyons d'accord, d'avoir 3 intégrales inédites de textes. Dis-moi lesquelles tu veux pour construire cette bibliothèque.
Oh les intégrales d'auteurs.
Ouais.
Oh alors là, moi, je prends l'intégrale des pièces de Sophocle.
Donc, il y en a un.
Oui, mais c'est déjà... Alors, j'ai droit à 2 autres.
Ouais.
Je dirais...
Mais pourquoi Sophocle?
Pourquoi Sophocle? Pourquoi Sophocle? Parce que c'est le... D'abord, sans doute que mon livre préféré, c'est Édith Piaf. Et vraiment, je m'en remettrai jamais de cette pièce. Et il creuse tellement les passions humaines de manière à la fois complètement, enfin, la forme correspond parfaitement au fond, et avec une telle un degré de profondeur. Par exemple, dans Édipe Roy, quand on voit tout le lexique de l'œil, alors qu'à la fin, Édipe se crève les yeux, mais c'est incroyable de voir comment il réussit à faire ça, alors qu'il a quand même écrit plus de 100 pièces dans sa vie. Mais c'est incroyable le niveau de qualité qu'il atteint. Enfin, de mon point de vue, c'est exceptionnel. Voilà. Sinon,
on sent que ce sont des deuxièmes fois.
Oui, c'est-à-dire que quand on a le meilleur, en fait, je crois qu'une seule intégrale me suffira. Voilà.
La totalité.
Oui.
Très bien. Et alors, cette bibliothèque, donc où est-ce que tu vas voir, quel est le type de maison que tu voudrais habiter?
Mais la bibliothèque de Babel n'a pas de limite. Donc, c'est pas une maison, c'est une bibliothèque dans laquelle on rentre, mais on ne peut pas en sortir. Et elle se déforme tout le temps, c'est la bibliothèque de Babel. Donc, elle n'a pas de fin, elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, ça peut être n'importe où et on peut y entrer de n'importe quel endroit. Là, par la porte, je prends cette porte-là, je sors et je tombe dedans. Donc, elle est partout et évidemment nulle part, mais il n'y a pas de forme.
C'est l'accès universel à la connaissance.
Oui, exactement.
La question la plus dure, mais tu y es préparée, quelle est la musique que tu souhaites?
Alors oui, heureusement que tu me l'avais dit avant, parce que je ne suis pas très douée pour choisir des musiques. Je choisirais un extrait de Lambarena. Ce sont des extraits de musique de Bach. J'aime beaucoup Bach, j'aime beaucoup la musique baroque. Remixé avec des chants traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Moi, chaque fois, je pleure quand je les écoute. C'est tellement extraordinaire. On a des rythmes traditionnels avec des voix magnifiques qui reprennent des grands classiques de Bach, des extraits de grands classiques de Bach, en particulier la messe en si, le début de la Passion selon Saint Jean. Enfin, pour moi, c'est à tomber par terre. Voilà.
Ce qui est vraiment dommage à la radio, c'est qu'on voit pas toute ta gestuelle. Mais encore merci Claire, et puis toutes mes félicitations pour le prix Vierlanger, et amplement mérité.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. Sakana ele ye, so ye, sakana.
mi mano kasongondo aira mama ele yo 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 sankanda me plané kai moanya e mama ele yo 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 telibala le saule kore moanya
sankanda ye
Ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans deux semaines. N'oubliez pas d'aller à Deux Jours en Jeu ce week-end au Cloître Toussaint. Et puis notez dans vos agendas la soirée Rentrons-Rentrées à la bibliothèque municipale le jeudi 17 octobre à 19h. On termine en métal avec Ultra Vomit qui sont là, une tête d'affiche du festival Omega Sound qui aura lieu à Mur-et-Rigné les 11 et 12 octobre. Un extrait de leur tout nouvel album Ultra Vomit et le pouvoir de la puissance.
Lorsque tu crois que tout est fini, oh, quand tous les projecteurs s'éteignent et que la salle sombre dans le noir.
sache qu'il y a toujours un espoir. Oh, quand tu rappelles le pouvoir, c'est le puissant pouvoir, le pouvoir de la puissance, c'est la puissance du pouvoir, c'est un pouvoir, pouvoir puissant, le pouvoir de la puissance, c'est la puissance du pouvoir, c'est la puissance du pouvoir.
Radio G 101.5 FM.
Take it down, point three. Trying to keep it low key. Take it down, point three. Trying to keep it low key. Take it down, point three. Trying to keep it low key. Take it down, point three. Trying to keep it, keep it.
Don't blow up my spot, motherfucker. I'm trying to make a bop. Don't blow up my spot, motherfucker. I'm trying to make a bop. Don't mess with my chest, motherfucker. I'm tryna be the best. Don't mess with my chest, motherfucker. I'm tryna be the best. Don't fuck up my flow, motherfucker. I'm never gonna go. Don't fuck up my flow, motherfucker. I'm never gonna go. Don't you rock this boat, motherfucker. I'm tryna be the goat. Don't you rock this boat, motherfucker. I'm tryna be the.
Take it down, point three.
Take off your earrings.
Trying to keep it low key.
Take off your hat.
Take it down, point three.
Take off your shoes.
Trying to keep it low key.
Take off your two.
Take it down, point three.
Fuck yourself.
Trying to keep it low key.
Go fuck yourself.
Take it down, point three.
Fuck yourself.